La Lorraine est une terre de métiers d'art. Mirecourt, Baccarat, Lunéville, Longwy, voici des villes qui témoignent d'un patrimoine riche. Le savoir-faire lorrain n'appartient pas au passé. De nombreuses formations aujourd'hui font vivre et évoluer nos traditions. Ces formations accueillent des jeunes lycéens, apprentis, qui sont aussi des créateurs, voire des artistes. J'ai invité Michaël Brun, dont le parcours et le témoignage vont nous permettre de découvrir le domaine peu connu des métiers d'art. Bonjour, c'est Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes sur Fadjet. Donc le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les métiers d'art. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Donc invité unique autour de la table aujourd'hui pour parler de ton parcours. Donc petite présentation succincte, qui es-tu, d'où viens-tu?
Alors comme il m'a présenté, je m'appelle Brun Michaël. Donc je viens d'un petit village à 20 km de Metz qui se prénomme Gorze. J'ai fait mes années de collège comme toutes les personnes.
Oui.
Après, j'ai décidé de faire un CAP en ébénisterie.
Donc après la troisième.
Après la troisième, oui. Suivi du CAP, donc j'ai continué sur le brevet des métiers d'art, qui équivaut à un bac professionnel. Suivi de ce bac, j'ai continué sur le diplôme des métiers d'art, donc qui est la suite logique des métiers d'art.
Oui.
Donc toujours en ébénisterie, et après ce diplôme des métiers d'art niveau BTS, j'ai refait un BTS donc qui est en cours de formation en design de produits.
D'accord, alors ce qui fait qu'aujourd'hui tu as quel âge?
Donc aujourd'hui, là je vais avoir 22 ans à la fin du mois.
Très bien, donc diplôme des métiers d'art, le dernier diplôme que tu as eu c'était en juin dernier.
C'est ça.
Dans quel domaine?
Donc dans l'ébénisterie.
Dans l'ébénisterie, on peut toucher ou parler en deux mots de cette formation, donc ébénisterie, on a bien compris, le mobilier, ça s'est déroulé dans quel établissement?
Donc l'établissement c'était à Neufchâteau.
Oui, la cité scolaire Pierre et Marie Curie.
C'est ça. Et donc en fait la formation, le but de la formation c'est d'avoir des acquis qu'on a eu dans le passé en ébénisterie et de les utiliser afin de montrer la création. Donc en fait on va avoir pour but de faire un meuble avec beaucoup de créativité pour un client en ayant un cahier des charges.
Mmh. Alors, entre ce qu'on apprend au niveau CAP, ce qu'on apprend quand on est plus âgé au niveau diplôme des métiers d'art, des DMA, pardon, quel est l'écart, la différence entre ce que vous apprenez, entre les outils, qu'ils soient outils matériels ou peut-être outils logiciels?
Oui, alors en fait en CAP et en BMA, on va avoir tout ce qui est les bases, les traditions du métier. Et après, quand on va passer en DMA, c'est qu'on a déjà un acquis et il va falloir que, entre guillemets, on joue avec ces bases pour faire ressortir la créativité de ce qu'on en a appris.
Mmh. Quelques noms d'outils qu'on utilise à Neufchâteau pour fabriquer les meubles?
On a les outils traditionnels, la dégo, la rabot, c'est des outils traditionnels, mais on va avoir aussi maintenant de plus en plus des commandes assistées par ordinateur, donc on va avoir des logiciels 3D comme par exemple Rhinoceros ou SolidWorks, et on va avoir des toupies à commande numérique qui permettent de faire des moulures ou des usinages à assistance numérique.
D'accord, donc là on est à la fois dans l'utilisation d'outils de fabrication, mais des outils aussi de conception avec de la création.
Oui, c'est ça. Mmh. Actuellement, oui, on est obligé d'avoir une conception à la base pour pouvoir être beaucoup plus précis au final.
Oui, c'est ce que je disais en préambule, quoi. La tradition est là, hein, en terre de Lorraine,
oui.
Terre des métiers d'art, mais les formations proposent des outils tout à fait novateurs, innovants, pour vous permettre de fabriquer en prenant en compte les dernières innovations technologiques.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. De toute façon, actuellement, on est obligé de rester dans l'air du temps. L'informatique est tout le temps présent, donc le métier aussi est impacté par l'informatique.
Bien, donc un beau parcours. Alors, ce qui a suscité cette invitation et puis notre discussion là autour des métiers d'art, c'était le concours que tu as présenté il y a quelques mois. Peux-tu nous présenter ce concours?
Donc, c'est le concours INMA. Donc, c'est un concours sur les métiers d'art. Donc c'est classé par niveau, CAP, BMA, DMA. Donc en fait c'est organisé par la région, puis après c'est un concours qui mène sur le national. Et en fait on va présenter une pièce qui a pour but en DMA d'être créative. Et un jury va sélectionner une pièce pour passer au niveau supérieur, au niveau national.
D'accord, donc on est à la radio et pas à la télé, donc ça va être difficile de présenter le meuble, hein, il n'est pas dans le studio actuellement. Néanmoins, quel était le meuble pour lequel tu as travaillé et que tu as présenté à ce concours?
Donc le meuble en fait que j'ai réalisé au cours de ma terminale de diplôme des métiers d'art. Donc en fait pour pouvoir accéder au concours là, c'est un concours qui est à la base scolaire. Donc on doit l'avoir fait dans l'année terminale de sa formation. Et donc en fait le meuble que j'ai présenté c'était un lutrin pour la bibliothèque municipale de Nancy, donc la bibliothèque Stanislas. Donc c'est un meuble de consultation pour les archives de journaux, où l'on peut consulter les livres, prendre des notes et s'asseoir juste à côté pour travailler plus longuement sur un bureau.
Quelles sont les contraintes spécifiques pour un meuble qui est installé dans une bibliothèque, donc ici la bibliothèque municipale de Nancy, bibliothèque prestigieuse. Quelles sont les contraintes par rapport aux livres qui sont utilisés par ceux qui cherchent de l'information?
Bah alors les contraintes qu'on a, c'est de toujours être soigneux avec le matériel. Donc il ne faut ne pas abîmer le livre. Donc c'est pour ça que le meuble
Une particularité.
il a une forme en fait adéquate à l'ouverture du livre. Donc on a une forme de V où on peut insérer le livre, parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le livre à 180 degrés, sinon on abîme la tranche. Donc on a une ouverture diminuée. Donc sur le meuble, on a cette partie qui est présente pour pouvoir consulter
D'accord.
les grands formats.
Donc ça, c'est la principale contrainte, c'est pouvoir ouvrir un livre, non pas à plat, mais avec un V à quelques degrés. Et donc, comment tu t'y es pris pour proposer ce meuble?
Après, on a d'autres contraintes. On a les contraintes d'ergonomie, comme dans la vie de tous les jours, pour tous les meubles. Et on a une contrainte que le mobilier doit être lavable. On ne puisse pas l'abîmer comme des millions de personnes vont pouvoir aller dessus, quoi. Sinon, les contraintes, en fait, ils avaient déjà un lutrin, mais qui n'était pas très fonctionnel. Donc, j'ai pris les bases de ce lutrin. Donc, il y avait un angle de 15 degrés, par exemple, entre le haut du livre et la base. Donc ça, c'est des contraintes que j'ai récupérées directement dans la bibliothèque quand j'ai eu un échange avec eux. Sinon, après, ben, j'ai cherché dans les livres d'ergonomie. Donc la consultation du livre se fait debout pour qu'on n'ait pas besoin de se tordre le dos quand le livre est à hauteur d'une table. Donc ça, c'est tout des normes que j'ai cherchées dans des livres.
Avec une réflexion avant la conception.
Oui, tout ça, c'est une réflexion qui est dans la conception, parce qu'en fait, on a une contrainte, donc c'est d'utiliser le livre, et après, il faut qu'on l'adapte au mieux, pour la personne. Donc après, ça, c'est à nous de rechercher, de se dire, voilà, il faut telle position ou une autre.
Oui, alors pour fabriquer et concevoir en premier lieu ce meuble, quelles ont été tes sources d'inspiration?
Alors les sources d'inspiration, en fait, déjà pour commencer, la bibliothèque, elle a des boiseries qui sont classées du 18e siècle. Donc en fait, étant donné que c'est une bibliothèque qui est classée, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de mettre une pièce complètement extravagante à l'intérieur. Donc en fait, je me suis inspiré du style Louis XV. Je me suis inspiré du style très présent à Nancy, donc l'Art Nouveau, ainsi que le style Louis XVI, parce que la bibliothèque est en plusieurs parties. La première partie est de style Louis XV et ensuite elle évolue sur le style Louis XVI. Donc en fait, on a un mélange de styles qui va en cohésion avec l'ensemble de la bibliothèque.
Bibliothèque qui se trouve rue Stanislas
Oui.
à Nancy. Au niveau des matériaux, il y avait un choix où le matériau était imposé.
Le matériau n'est pas imposé, à part dans le diplôme, en fait, on a un peu une obligation d'utiliser le bois et le plaquage pour faire des marqueteries. Pour que le fait que ce soit un DMA ébénisterie soit valorisé, il faut qu'il y ait quand même l'utilisation du bois. Mais on a le droit, et c'est même très valorisé, d'ajouter d'autres matériaux pour enrichir le bois ou enrichir le fait qu'il y ait plusieurs matériaux. Donc là, c'est le cas sur ce meuble. Donc j'ai voulu représenter la feuille de papier journal. Donc en fait, comme
Oui.
c'est une bibliothèque, j'ai le thème c'était sur le temps, le passé, le présent et le futur. Et au niveau du journal, on avait ces trois temps qui étaient présents. Donc le passé était présent aujourd'hui, étant donné que c'est une information qu'on donne tous les jours. Il y a des informations futures qui sont données dans le présent, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez présents. Du coup, j'ai cherché en quoi le journal avait le futur. Donc, j'ai
Ouais.
cherché qu'est-ce qu'on faisait avec le journal. Alors, on va le recycler, on va le jeter, ou on va l'utiliser, je ne sais pas, pour allumer son feu, ou je ne sais pas quoi. Mais en cherchant plus longuement, en fait, j'ai remarqué que tous les journaux sont archivés. À quelque part, et donc j'ai
Ouais.
cherché en Lorraine où était-il archivé, donc c'était à la bibliothèque municipale de Nancy.
La boucle est donc bouclée.
C'est ça. Donc j'ai décidé de travailler sur la feuille de journal. Et la feuille de journal, fallait que je la matérialise par quelque chose de fin. Donc j'ai décidé d'utiliser la fibre de verre où j'ai pu avoir par exemple une épaisseur de 10 mm et j'ai eu des courbes comme si on avait la feuille qui sortait des imprimantes, des rouleaux. J'ai montré le chemin de la feuille au travers des imprimantes, de la lecture. Donc en fait, on a des formes ondulées qui sont matérialisées par la fibre de verre qui sont après remaintenues sur un plateau en bois.
D'accord, donc quand on regarde le meuble, on a une partie plus classique avec un piétement relativement sobre. Et puis à l'opposé, on a un piétement réalisé par une fibre de verre toute ondulée qui constitue entre autres le piétement plus le lutrin. Et c'est là le côté innovant du meuble que tu as proposé.
C'est ça. Parce que le côté ondulé va reprendre les formes vives de l'Art nouveau et le galbe du style Louis XV. Et quand on va vers le style Louis XVI, bah en fait, c'est un retour aux formes géométriques, donc d'où l'évolution en fait de quelque chose de beaucoup plus sobre.
Donc on voit par tes explications que lorsqu'on est titulaire d'un DMA, certes on a un savoir-faire, on sait manipuler des machines pour fabriquer, mais on a aussi un recul par rapport à des références historiques et puis d'autres références dans le domaine du design. Comment t'es venue cette idée d'utiliser le papier journal pour constituer une partie du meuble? C'est assez original.
Donc en fait, bah, comme j'ai dit juste avant, le thème était passé, présent, futur, donc j'en ai déduit le journal, et donc je me suis dit, faire un meuble avec du journal, comment je vais faire? Donc en fait, comme tout le monde, quand on a une idée, je sais pas, on va chercher, et j'ai cherché des références, donc en fait, j'ai trouvé des artistes, donc par exemple, un artiste qui a inventé ils appellent ça le New Paperwood, donc en fait, c'est une feuille de journal qui est... Bah, qui est enroulé sur une base et en l'enroulant et en le collant, on va réinterpréter en fait l'arbre en lui-même. Donc on va ré
En tout cas, utiliser différemment ce matériau et
oui
faire en
voilà.
sorte que ce matériau, le journal, qui en premier lieu sert à communiquer, devienne matière première pour créer des objets.
C'est ça, oui, parce que le fait de l'enrouler, on voit les cernes du. En fait, on refait les cernes du bois et en le coupant, on transforme le papier directement en bois. Donc, oui, le journal devient la matière première et plus le bois. Donc, c'est très innovant d'avoir le papier comme matière journal et comme base et plus le bois.
Ouais. Pour ceux que ça intéresse, comment s'appellent les designers qui t'ont inspiré? Il s'agissait de Élise Morin et puis Chloé Carpentier,
Oui, c'est ça.
qui fabriquent des objets divers à partir de feuilles de papier journal ou de livres.
Bah, ces artistes-là, oui, ils ont aussi travaillé sur ouais, les livres.
Say hey, 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 leave it like we're renegades. Hey, 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 leave it like we're renegades. Vous écoutez le Forum des Jeunes sur Fadjet. Nous parlons des métiers d'art. Michaël Brun est mon invité. Il est titulaire d'un DMA, d'un diplôme des métiers d'art en ébénisterie. Et il a présenté un objet de sa conception et de sa réalisation en juin dernier pour le concours de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art. Alors ce concours, comment ça s'est passé, Michaël ? Le déroulement ?
Ça s'est très bien passé. Mmh. Alors le déroulement, en fait, c'est une présélection qui est faite au niveau de la classe. Donc en fait, on a, comme c'est en année de terminale, donc on peut présenter le projet. Ouais. Seulement deux personnes du niveau BTS peuvent présenter la pièce. Mmh. Donc au départ, dans la classe, en fait, on était cinq. Donc après, au fil de l'année, on a été plus que trois. Ouais. Donc il fallait toujours qu'il y ait que deux personnes. Donc oui. En fait, au cours de l'examen, en fait, comme on a un jury pour l'examen final, c'est le jury final qui a sélectionné, en fait, qui a estimé les deux meilleures pièces pour pouvoir les présenter. Donc en fait, j'ai été sélectionné avec un autre de mes collègues.
Oui.
Donc de cette sélection, on avait accès au concours INMA qui est au niveau régional.
Mmh. Donc toi, tu as présenté cette table avec Lutrin pour la bibliothèque municipale de Nancy.
Oui.
Et ton copain qui était dans la même classe, quel objet a-t-il présenté ?
Donc il a présenté, c'était un cabinet pour ranger des pierres précieuses.
Bien. Mmh. Donc voici les deux sélections de la classe. Donc vous avez travaillé pendant toute une année scolaire sur la conception et la réalisation de l'objet, du meuble.
Oui, c'est ça. Donc pour ma part, par exemple... J'ai eu à peu près 400 heures de travail sur la pièce en elle-même, mais je compte pas la conception au niveau de la réalisation des plans, parce que ça fait beaucoup plus. Et oui. Comme on est dans, en fait, on apprend, on met beaucoup plus de temps que.
Sans compter non plus le dossier à présenter devant le jury, un dossier d'une quarantaine de pages.
Non, oui, le dossier n'est pas compté dans la réalisation. 1400 heures, c'est vraiment le début de la fabrication, à la fin de la fabrication, à la finition.
Alors, le déroulement du concours, comment ça se passe concrètement ? Y a-t-il que deux candidats issus de votre classe ou y a-t-il d'autres candidats dans votre domaine ou dans d'autres domaines ?
Donc, en fait, c'est ouvert à tous les métiers d'art. Donc, en fait, là, on était au niveau BTS. C'est ouvert, par exemple, à un autre DMA, le DMA Lutry, qui avait d'ailleurs un concurrent du coup au niveau du concours, mais ça peut être le BTS photo peut concourir ou d'autres BTS qui sont dans le domaine des arts. Donc en fait c'est le concours, il faut s'inscrire avant le mois de juin. Mmh. Et donc on le présente courant septembre octobre. Et donc on est convoqué et on passe devant un jury qui est composé donc de personnes qui sont chargés des métiers d'art.
Sans doute des professionnels.
Oui, des professionnels. Il y a des journalistes. Il y a aussi des historiens d'art qui sont là pour vérifier qu'on ait bien travaillé, ouais, et que ce soit bien une pièce qui relève des métiers d'art. Donc on est jugé et à l'issue de cet oral, il y a un classement qui est libéré pour pouvoir envoyer son candidat en fait, régional. Promouvoir la région au niveau national.
Mmh. Alors pendant cette orale, vous devez présenter la technique, les intentions créatives également. Quoi porte cette orale ?
Oui, alors comme c'est, il y a plusieurs niveaux, CAP, BMA et DMA, il y a plusieurs niveaux d'exigence. Je veux dire, en CAP, on va avoir une exigence d'avoir une très bonne exécution du métier.
Oui.
Alors que en DMA, l'exécution du métier va être exigeante aussi, mais il va relever aussi de la créativité, et c'est ce qui va être presque le plus important. C'est que la pièce doit être très créative, bien exécutée, mais très créative.
Mmh.
Et donc, en fait, on va être jugé sur la créativité. Donc là, il y avait donc mon collègue avec le cabinet pour les pierres précieuses. On était aussi en concurrence contre un luthier donc qui a fait une guitare. Donc un luthier normalement fait des violons, mais il a interprété toutes les manières de faire un violon dans la guitare. Donc c'est lui qui a été sélectionné pour aller au niveau national. Donc en fait c'est un peu un coup de cœur que le jury a eu de réinterpréter le violon dans une guitare.
Bien. Pas trop déçu donc, Michaël, avec ta table Lutrin qui n'aura pas l'occasion de représenter la Lorraine au niveau national.
Bah si, je suis un peu déçu, même si en fait le but premier du concours c'était l'échange avec des personnes extérieures. Je veux dire, quand on est au lycée, on a un échange, une bulle qui est assez restreinte, et le fait de s'ouvrir à des concours, ça permet de voir d'autres personnes, de voir d'autres points de vue. Et j'avais envie d'aller au niveau national parce que là on a encore un autre point de vue qu'au niveau régional. On a des grands artistes qui se déplacent ou des...
C'est l'occasion de nouer des contacts aussi.
Voilà, c'est ça. Il y a des contacts qui se font, on voit de nouvelles choses. Et c'était l'enrichissement en fait d'un nouvel apport, de nouvelles rencontres qui m'intéressaient beaucoup. Donc oui, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir aller à Paris représenter mon mobilier et de voir de nouvelles personnes, de voir ce que les autres aussi dans les autres formations sont capables de faire et de voir s'il n'y a pas une interaction qui est possible entre les métiers.
Néanmoins, l'objectif est rempli par rapport à ta participation au concours au niveau de la Lorraine. Tu as pu t'exprimer, rencontrer d'autres, peut-être trouver des partenaires pour aboutir à la réalisation de ce meuble.
Alors oui, bah, les partenaires, j'en avais eu avant. Donc au cours de la formation de DMA, on a des stages au préalable et j'ai trouvé une entreprise qui était prête à m'aider donc financièrement pour exécuter le meuble parce que les matériaux ont un coût. La fibre de verre est un matériau assez coûteux. Donc bah, je remercie par exemple l'entreprise Laval qui est située à Liffol-le-Grand juste à côté de Neufchâteau. Donc ils travaillent dans l'ébénisterie de luxe, ils font que du mobilier de luxe. Et donc je les remercie grandement parce qu'en fait ils m'ont apporté un savoir-faire en me laissant aller travailler chez eux et ils m'ont apporté un apport financier pour pouvoir réaliser ce mobilier. Sans eux, bah, j'aurais jamais pu faire mon meuble.
Ouais, et
Donc je les remercie beaucoup.
cette ouverture aussi sur les matériaux composites qui, même s'ils sont déjà un peu anciens, sont quand même relativement novateurs dans le domaine du mobilier.
Oui. Oui, c'est quelque chose de novateur. On a l'utilisation que du bois ou le cintrage du bois, mais l'alliage des deux matériaux est vraiment en pleine expansion en ce moment.
Bien, quels sont tes points de satisfaction par rapport à la participation à ce concours?
Bah, les points de satisfaction, bah, c'est que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je veux dire, les concurrents qu'on a pu avoir, on a pu discuter, on a eu un enrichissement de voir ce que d'autres personnes pouvaient faire et ça donne d'autres points de vue. Donc, ça veut dire que si j'ai d'autres projets, ben, j'aurai un autre regard comparé à si j'étais tout seul et que j'étais
Ouais,
fermé,
bien
quoi.
sûr, bien sûr. Et ensuite, le diplôme des métiers d'art en poche, quelles sont les perspectives pour Michael?
Donc bah pour moi les perspectives ça a été de refaire un BTS parce qu'en fait avec le DMA on voit beaucoup la technique et le BTS design de produit que j'ai choisi on va voir plus le côté industriel, le côté commercial. Donc en fait plus tard moi j'aimerais monter mon cabinet de design et donc je voulais avoir un point de vue global. Donc avec l'ébénisterie j'avais le point de vue technique et je voulais plus le côté conceptuel qu'on va pouvoir retrouver dans le BTS design de produits pour vraiment avoir un regard très large et pouvoir être le plus polyvalent par la suite.
D'accord, une ouverture par rapport à autre chose que le domaine du bois et de l'ébénisterie.
C'est ça, parce que quand on a un cabinet de design, on est apprêté à faire on est apprêté à répondre à une demande et la demande n'est pas spécialement le bois, ça peut être tout. Donc la polyvalence est très importante. C'est ce que je suis
D'accord.
venu rechercher dans le BTS design de produits.
Au lycée,
Au lycée Lauritz,
à
à Nancy.
Nancy. Y a-t-il d'autres perspectives après ce BTS design de produits pour
Voilà.
toi?
Oui, il y aurait eu d'autres perspectives. Donc il y avait par exemple une licence professionnelle à l'ENSTIB, donc l'École nationale supérieure des techniques de l'industrie du bois. Mais moi, bon, ça me convenait pas parce que c'était... En fait, c'est une école d'ingénieurs et ça va être très 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 technique et la formation ne proposait plus de créativité. Donc pour moi, c'était pas concevable de faire une formation où la créativité n'existait plus. Donc je me suis pas dirigé vers là. Après, on a d'autres formations comme le DSA, donc c'est un diplôme supérieur des arts appliqués, donc dans la spécialisation du produit. Mais donc bah, il faut faire des demandes, c'est sur dossier et le problème c'est que sortant d'un DMA on n'a fait que du mobilier, on n'a pas vu spécialement des produits, donc des objets quelconques. Et donc, on n'a pas vraiment les armes pour rentrer dans cette formation.
Pas vraiment prêt à ce moment-là.
C'est ouais. ça.
Est-ce qu'en Lorraine, tu as l'impression que les jeunes qui se dirigent vers les métiers d'art, vous êtes suffisamment entourés, suffisamment informés sur les métiers d'art?
Alors oui et non. Je dirais que quand on n'est pas dans les métiers d'art, quand on ne baigne pas dedans, on n'est pas informé. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est quand j'étais au collège en troisième, quand j'ai dit que je voulais être ébéniste au moment de l'orientation, j'ai été chez le proviseur à plusieurs reprises et il me déconseillait d'aller dans une filière où c'était un CAP. Et il voulait que j'aille dans un bac général, donc faire une seconde normale. Et lui, il me disait qu'il fallait que je fasse une seconde normale, que j'ai mon bac comme tout le monde, et seulement après, je pourrais aller vers un CAP. Mais après, moi, j'ai refusé. Je veux dire, c'est ce que je voulais faire, donc j'y suis allé. Donc, je trouve que là, on n'est pas trop informé. Mais après, une fois qu'on est dans les métiers d'art, on a des intervenants au niveau des écoles, qui viennent, qui nous informent sur les expositions qui peut y avoir, sur les échanges qu'il y a. Et après, oui, quand on est dedans, on est bien informé.
Oui, sur les différents concours.
Oui, sur les concours.
Tu peux te présenter. Bien, cette émission va se terminer. Bravo, Michael, pour ton parcours et pour ton témoignage. Je crois que les métiers d'art donne la possibilité aux jeunes de valoriser votre travail par le travail manuel, ce qui est peut-être moins le cas pour une formation plus intellectuelle. Est-ce que c'est aussi ton sentiment ?
Oui, parce que quand on réalise un objet, c'est vrai qu'on a la fierté de pouvoir se dire « voilà, c'est moi qui ai fait ça de mes mains ». Alors c'est sûr qu'un ingénieur, des fois, c'est un peu fictif. Mais oui, on a vraiment l'impression d'être valorisé quand on fait des concours, quand on montre notre pièce à n'importe qui dit t'as fait ça, bah oui, on est fiers de pouvoir montrer ce qu'on a fait.
Mmh. Bravo et merci Michael pour ce témoignage. C'était le Forum des Jeunes sur Fadjet.